7h16, bonjour Pierre-Yves.
Bonjour Paul.
Alors ce matin, comparatif entre le tableau des médailles et la performance économique des pays qui participent aux Jeux olympiques.
Oui, le produit intérieur brut, parce que Bloomberg tient un tableau intéressant, dit « C'est bien beau être riche, oui, les nations les plus riches font de meilleurs scores aux Olympiques en moyenne parce qu'elles ont plus de moyens. Mais comparons avec des indicateurs économiques. » Et là, Paul, tout de suite, j'ai eu une excitation, donc je suis allé voir, tu sais. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on regarde le tableau des médailles. Par exemple, la Norvège, avec 26 médailles, on leur donne un ratio médailles par million d'habitants, million par, oui, 4,89, et médailles par 100 milliards de produits intérieurs bruts, 6,92. Alors, ça, c'est les premiers.
Ce qui veut dire?
Ce qui veut dire, c'est simplement que, en Norvège, on a un bon score au niveau du nombre de médailles par personne qu'il y a dans le pays et par produit intérieur brut, donc tout ce qui est fabriqué et produit à l'intérieur du pays et les services rendus. Et quand on regarde le Canada et les États-Unis, ben, t'as donné un exemple. Au Canada, on a 0,45 médailles par million de personnes, tandis qu'aux États-Unis, on a 0,03 médailles par million de personnes. Donc, on est en train de démontrer que la grosseur de la population et le nombre et la valeur du produit intérieur brut n'est pas proportionnelle. Et là, on peut faire des analyses. On peut dire, par exemple, il n'y a pas de corrélation parce que ça dépend de plusieurs facteurs. Par exemple, la culture. En Norvège, la culture du ski de fond, qu'on soit riche ou non, on aime ça. Tu sais, la priorité nationale au Canada, c'était pas une priorité avant les Olympiques. Mais depuis Vancouver, on a mis plus d'argent, plus de ressources. Il y a aussi le talent des individus. Tu sais, la performance d'Alex Harvey, c'est pas le ski Canada, c'est Alex Harvey. T'sais, et il y a le niveau de nordicité d'un pays. Donc, au Canada, tu sais, tout le monde gèle en hiver au Canada. T'sais, donc, il y a de la neige. Tandis que si tu t'en vas aux États-Unis, ben, pourquoi les Américains aux Jeux d'hiver ont une moins bonne performance, bien qu'il y ait de l'argent, bien qu'il y ait des millions de personnes? Ben, au Texas, on tripe peut-être moins ski alpin, tu sais, que dans le Maine. Donc, il y a ça. Donc, même si on tente de faire des liens entre l'économie et les facteurs économiques et la performance, il y a ses limites. Tu sais, Haïti gagnera pas le bobsleigh. Et si on va plus loin, on parle aussi des millionnaires et des milliardaires qui financent les sports. Et on nous dit, par exemple, qu'aux États-Unis, le groupe de ski et de snowboard est financé beaucoup aussi par des intérêts privés. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui donnent, il y a des milliardaires qui donnent de l'argent, qui font des levées de fonds. Et ça aide justement à avoir des moyens, à aider des athlètes au-delà de leur talent et de leur effort à avoir des médailles.
Autre sujet ce matin, les Canadiens qui prennent leur maison pour un compte de banque.
Oui, les marges de crédit hypothécaire sont en croissance élevée depuis 2012. La logique, tout le crédit est utilisé. Donc, les institutions financières disent aux gens, allez emprunter sur le capital de votre maison, ça vous coûtera pas cher, ça va vous empêcher de faire une consolidation de dette, ça va vous empêcher de faire des ententes avec des consommateurs, ça va vous empêcher d'être au dollar à chaque mois et d'éviter un dépôt légal ou une faillite. Donc, présentement, les Canadiens, selon les statistiques, préfèrent cette source de financement aux autres prêts. Donc, en 2016, il y a un point d'inflexion, OK, où les gens ont arrêté d'utiliser une croissance du crédit personnel, c'est-à-dire carte de crédit, marge de crédit hypothécaire, prêt personnel, et on a orienté la croissance de l'emprunt vers la marge de crédit hypothécaire. Et là, on voit...
Attends, là, je te suis pas, là. Ça veut dire que quoi? On est allé chercher le maximum qu'on pouvait sur les cartes de crédit puis les emprunts personnels?
Puis on est allé refinancer nos dettes sur la marge de crédit hypothécaire. Donc, la croissance, au lieu d'augmenter mon solde de carte de crédit qui est plafonné, je suis allé m'endetter vers la marge de crédit hypothécaire pour rembourser, pour faire des rénovations et pour payer mes dettes. Donc, ça devient...
C'est une bonne affaire, ça, ou c'est pas une bonne idée?
C'est une bonne affaire à court terme. Tu sais, quand t'as beaucoup de dettes, mettons, j'avais des amis qui avaient des dettes à 12, 15, 20 et là, le banquier, il dit, regarde ta maison, ton prêt est à 3%, donc on peut aller te chercher du capital là-dessus, puis au lieu de payer du 18 puis du 19, tu vas payer du 3. Ça fonctionne une fois, ça, Paul. Une fois, c'est logique. Tu dis, j'ai une malchance, je m'entresse. Mais après ça, le problème, c'est que depuis l'an 2000, il y a des gens qui ont utilisé ça comme modus operandi. Le crime du crédit se faisait, tu sais. Donc, à tous les 5 ans, allaient réhypothéquer leur plus-value de maison pour payer les dettes. Donc ça fonctionne tant ou si longtemps que ta maison monte, que les taux d'intérêt baissent. Mm-hmm. Et là, ce qu'on dit, c'est que les régulateurs devraient regarder très précisément cette donnée-là. Parce que les gens ont fait ça, donc ont emprunté sur leur maison. Et l'avantage de la marge de crédit hypothécaire, c'est que tu n'es pas obligé de rembourser le capital. Tu peux payer juste les intérêts. Donc, c'est une autre façon de tirer l'élastique. Tu prends un prêt, souvent, par exemple, variable sur ta marge de crédit hypothécaire, et tu ne payes que les intérêts. Donc, tu maintiens ton train de vie artificiellement parce que tu ne rembourses pas une partie de l'hypothèque en laissant le capital non remboursé. ce qui fait en sorte que tu peux arriver à la retraite avec une maison pas payée. Et les Canadiens sont environ 3 millions de comptes de marge de crédit hypothécaire au Canada. Si on compte la population canadienne, tu comprends que c'est un grand pourcentage. Et la moyenne.
Ça, est-ce que c'est relié au fait qu'il y a eu, par exemple, je pense à Vancouver, Toronto, Montréal aussi, là, mais quand même une espèce de flambée des prix des maisons?
Oui, puis surtout de la rénovation. Tu sais, t'achètes une maison, par exemple, en 2015, puis tu sais, deux ans plus tard, elle a pris 20 000 de valeur, 30 000, 50 000 de valeur, et que tu veux rénover, mais t'as pas une scène parce que tu l'as déjà acheté à la limite de ton crédit, bien, la banque lui a dit, on va te faire une marge de crédit hypothécaire avec la plus-value de ta maison, puis tu vas pouvoir faire tes rénovations avec ça. Puis tu les mettras sur 25 ans, c'est pas grave. Donc, tu vois, c'est un peu ça le danger, c'est que c'est du crédit pas cher, basé sur de l'argent que j'ai pas économisé, hein, c'est de la plus-value de la maison ou de l'argent économisé dans le passé. Et les gens préfèrent augmenter ça que s'endetter. Mais c'est très intéressant parce que plus on va là-dedans, plus on atteint la limite de ce que les gens font. Et pourquoi c'est un indicateur important à regarder pour le gouvernement, c'est-à-dire, si on est rendu là, c'est quoi le prochain step? Qu'est-ce qui va sauver le consommateur la prochaine fois? Ben, c'est une austérité. Donc, si je te donne le choix, Paul, préfères-tu réhypothéquer ta maison ou austériser ton budget pour 5 ans? Les gens vont préférer réhypothéquer leur maison. Mais c'est normal, c'est un bon réflexe.
Merci. Bonne journée.
Salut.
7h22.